bagarre à l'école maternelle. C'est la maîtresse qui a dû intervenir. Et moi, j'ai dû passer la prochaine heure où, sur le banquet de la honte, hein, qui était dans un coin, hein, tu étais là et tout le monde voyait. Ah voilà, toi, tu as fait quelque chose. C'était la première de innombrables bagarres épiques, hein, qui ont suivi au fil des années. Ce n'était jamais de méchanceté, hein, ou par haine ou par vengeance. C'était seulement une manière de s'affirmer. Hein. Qui est le plus fort? Et souvent, les profs, ils savaient, ils ne sont même pas intervenus, hein, dans nos bagarres épiques. Une chose pareille est encore possible aujourd'hui. Permettez-moi d'en douter. Je suis carrément écœuré de devoir lire dans les journaux que la violence aujourd'hui ne connaît plus de limites. On sort le couteau, on tabasse, on frappe encore celui qui est par terre. Tout est prétexte pour démolir. Un match de foot, une manifestation quelconque, un regard de travers, la mauvaise couleur de peau, une sexualité pas comme les autres. Tout est prétexte pour démolir, pour casser. Et dans ce contexte de Noël, hein, c'est actuel. Quel était les deux souhaits qui ont amené les anges devant les bergers? Gloire à Dieu, le Très-Haut, et paix sur la terre, exactement. Et c'est exactement pour cela que Jésus est venu. Annoncer la paix, le message de la paix, et l'Église aussi, et le messager de la paix. Mais même la paix qui vient de Dieu n'arrive pas sans conflit, sans souffrance, sans bataille. Alors, on arrive au fameux chapitre 6, Éphésiens. Même si je ne sais pas faire du mal à une mouche, Paul nous invite, hein, dans ces passages à nous munir de son armure. Écoutons plutôt. Ah, et là, ah, peut-être que je n'ai pas allumé. Attends, oui, c'est moi. Non. C'est trop loin, peut-être. Ah. Ah, voilà. Attends, je regarde seulement. Ah, ça marche. Voilà. Écoutons plutôt, vous pouvez lire avec moi. Hein. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure de Dieu. Ah, l'armure que donne Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité comme ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier pour lequel vous pourriez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Après 5 chapitres très riches, Paul aimerait maintenant conclure sa lettre. Il a parlé de l'amour en action, comment je peux vivre aujourd'hui cet amour que Dieu me donne. Il encourage de progresser dans la foi, d'une foi authentique, jour après jour. Mais cette foi authentique, concrète, pratique, est le fruit d'un combat de tous les jours. Et pour réussir, il faut être équipé. C'est obligé. J'ai lu un... Non, je ne suis pas encore né en 1914. Hein. C'est moi pour ceux qui pensent que je suis vieux. Mais qu'au début de la Première Guerre mondiale, quand les Allemands étaient déjà en uniforme, Feldgrau, hein, gris, hein, comme on connaît, les Français étaient encore en uniforme bleu et rouge, un peu de la façon napoléonienne. Et au début de la guerre, ils se sont laissés fait tirer comme des lapins. Pardon, hein, cette expression. Mais c'était ça, parce qu'on les voyait partout. Ils n'étaient pas bien équipés. Il ne faut pas se tromper d'armure. C'est mon première idée. Et les anciens de la foi, ça va vous faire tilt tout de suite. Vous pensez à... David. Hein, voilà, David et Saül. Hein. Quand David, le futur roi d'Israël, était encore un jeune berger, il y avait la guerre entre Israël et les Philistins. Et dans l'armée des Philistins, il y avait ce géant. Une vraie machine de guerre, hein, un tueur. Et pour faire peur aux Israélites, il a déclaré, voilà, on va faire que la fin de la guerre, ou le... qu'est-ce que j'ai marqué ? Il ne faut pas que je... Il proposait que la guerre s'est décidée sur un combat singulier. Ça, je voulais dire. Hein, Goliath voulait combattre le meilleur guerrier d'Israël et le gagnant rafle tout. Mais là, dans l'armée de Saül, il n'y avait personne qui voulait combattre Goliath. Et quand le jeune David, encore berger à l'époque, hein, entendait que Goliath insultait le Dieu d'Israël, il ne pouvait pas rester sans agir. Il voulait défendre l'honneur de son Dieu. Quand il a réussi à se présenter devant le roi Saül, Saül lui a proposé son armure. Il a essayé de la porter, mais il ne pouvait même pas bouger. Finalement, il est allé sans armure avec le résultat qu'on connaît. Stop. Stop. Est-ce qu'il est allé sans armure? Qu'est-ce qu'il dit quand il est en face de la machine de guerre des Philistins? Tu viens avec ton armure, avec tes armes, mais moi je viens au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées. Bien sûr que David avait son armure, l'armure de Dieu. L'armure de Saül ne pouvait pas aider. Si nous combattons pour Dieu avec les aides artificielles, ça ne nous aide pas. Bien au contraire, nos propres forces, nos propres idées ne font pas seulement ralentir. L'armure... Ah. Oui, voilà, c'est ça. L'armure de Dieu est une pièce unique. Verset 10. Pour conclure... On essaie maintenant de regarder doucement ce passage. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Je dis ça parce que David dans la Bible et nous aujourd'hui, nous utilisons le même armure. C'est l'armure de Dieu lui-même. Vous savez que même Dieu porte cette armure-là, hein? Ésaïe, chapitre 59, versets 16 et 17. C'est Dieu qui parle. Hein. Il n'a trouvé personne qui intercède. Il s'en est étonné même. Alors son propre bras lui est venu en aide et sa justice a été son soutien. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il s'est mis sur la tête le casque du salut. Même Dieu a mis le même armure, qu'on trouve ici dans Éphésiens 6. Mais oui, Dieu porte cette armure. C'est l'armure qui portait David contre Goliath, Jésus contre le diable, et pourquoi pas toi, pour tenir ferme dans les combats. Le secret de cette armure, c'est la source. D'où prends-tu ta force? Paul, il sait pertinemment qu'ils ne peuvent pas réussir avec leur propre force. Tu vas échouer. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire concrètement quand il dit « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce n'est rien d'autre que passer de temps avec lui. C'est rien d'autre que passer de temps avec lui. Quand Jésus était au plein combat, regardez une fois dans sa vie, quand il était en plein combat, quand il ne pouvait plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la force auprès de son Père. Il n'a rien de mieux, hein, rien de mieux pour puiser cette force que d'aller dans sa chambre, de fermer la porte à clé et là, passer le temps tout seul avec ton Créateur. C'est ça, puiser la force. Il n'y a pas d'autre endroit qui est propice pour vous donner à nouveau la force pour votre vie. Et là, dans cette chambre, hein, c'est là où ton armure est forgée pour toi, à ta taille. On continue. Un ennemi dangereux demande un équipement solide. Versets 11 et 12. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Tout d'abord, une chose. Nous avons besoin de l'armure de Dieu, oui. Mais on ne l'a pas besoin pour remporter des victoires. Nous l'avons besoin pour tenir ferme et pour résister, comme il dit après dans le verset suivant. Nous ne remportons pas de victoire parce que Jésus-Christ a remporté la victoire. 3 points d'exclamation. C'est Jésus-Christ qui a remporté la victoire. Ce n'est pas nous. Nous pouvons tenir ferme, même pas toujours, hein, si vous êtes comme moi. Hein. Et c'est déjà beaucoup. Mais loué soit Dieu, j'espère que vous connaissez le verset, hein, mais loué soit Dieu qui vous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57. Victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Vous savez, le diable est fort. Je n'aime pas dire ça, hein, parce que j'ai toujours l'impression que je lui donne trop d'importance. Mais c'est important de ne pas le sous-estimer. Avec ses ruses, il fait chuter le plus vaillant. David, Pierre, Judas, pour nommer que 3. Vous savez que même dans les églises évangéliques, on n'aime pas trop parler de lui. Enfer, le diable, ça fait barbare. L'éternelle perdition n'a plus de place. Souvent plus de place dans nos messages. Le diable n'existe pas. C'était peut-être la ruse le plus réussi qu'il a lancée. Suivi de près par l'idée, par exemple, que pécher, ce n'est pas grave. Dieu nous pardonne tout. C'est vrai que Dieu nous pardonne tout. Je ne mets pas en doute, mais ça enlève en rien que le péché, c'est grave. C'est grave. Oui, Et là, peut-être ça a déjà à nouveau fait tilt chez l'un ou l'autre. Parce que dans les ruses du diable, il a toujours une vérité dans le mensonge, toujours. Hein, vous vous rappelez quand il a essayé de faire tomber Jésus, hein? C'est pas marqué dans la Bible, paf, il y a toujours. Et c'est ça qui fait que c'est tellement dangereux, souvent. Une de ses favoris, c'est aussi de t'épuiser d'une façon que tu es trop fatigué pour tout. Avant tout pour prier et pour lire la Bible. Et bien sûr, de t'engager à l'Église. Et souvent, c'est souvent couplé avec tes idées noires. Une autre de ces ruses, c'est les pip-pip qui sortent de vos smartphones, qui fait que nous avons tellement du mal à nous concentrer sur quelque chose. Tellement du mal. Et même, oh là là, j'ai honte. C'est honte, il faut cacher mon téléphone quand je prépare la prêche. Parce que chaque fois qu'on se fait pipi, c'est plus fort. C'est comme une main qui sort du corps pour un... C'est fou. C'est fou. Encore une fois, la ruse est dangereuse. Parce qu'elle est toujours couplée avec quelque chose de bien, de positif. Une étude se posait la question, qui, dans l'histoire, a la plus influencé l'humanité? Est-ce que c'était Lénine? Est-ce que c'était Mao? Est-ce que c'était Gandhi, Hitler, Staline, Martin Luther King? Mais tout ce beau monde, c'est des petits joueurs contre Facebook, contre TikTok, contre Twitter. Paul ne dit pas pour rien que les véritables ennemis de notre âme ne sont pas des êtres en chair et en sang, mais des véritables puissances qui nous dépassent. Je peux vous laisser un dernier pour la route de ces ruses. C'est l'épanouissement personnel. Il faut toujours tout regarder sur moi. Et après, quand je suis bien, je peux penser aux autres ou à l'Église. C'est vraiment ça que Jésus nous montre par sa vie. C'est vraiment ça. Alors vous avez une autre Bible que moi. Pourquoi faut-il s'équiper? C'est marqué dans le verset 13. Seulement, si vous êtes bien équipé, vous pouvez résister aux forces du mal quand il s'agit de bataille. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez maintenir le terrain après avoir fait tout ce qui était possible. Soyons clairs, hein? Si nous parlons de bataille, nous ne parlons pas de massacrer, hein? De tuer. Hein, de wafafa, d'écraser qui que ce soit. Hein. Nous parlons de bataille pour la pureté de notre âme, pour la sincérité de notre vie et de notre engagement, pour la clarté de mes motivations. C'était ça on parle. Paul dit clairement, nous ne pouvons pas résister si nous ne sommes pas bien équipés. J'insiste parce que je trouve que c'est quelque chose que le monde séculaire a bien compris. Hein? Comme de l'eau de roche. Un pompier, il est équipé par des trucs pompiers. Hein? Un policier est équipé par des trucs pompiers. Hein? Une assistante maternelle comme Christina a des trucs d'assistante maternelle. Chacun est équipé selon ses besoins. Seulement les chrétiens, ils pensent qu'ils peuvent participer à la bataille n'importe comment. On se demande pourquoi il a tellement de chrétiens mal au point, tellement de chrétiens stressés, fatigués, découragés. Nous sommes des cibles si faciles à atteindre, si faciles, parce qu'on pense qu'on peut faire n'importe quoi. On n'a pas besoin, on va parler après, de l'armure. Oh, on est assez fort, voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve? Des moqués chrétiens qui ne peuvent plus. C'est affligeant, hein, c'est affligeant. Le combat est une affaire d'équipe. Le Seigneur, l'armure de Dieu et toi. Vous travaillez ensemble. Le Seigneur est là. L'armure est à ta disposition. Mais il faut la saisir. Il faut la mettre. Il faut la garder. Vous avez vu dans le verset 1, quand vous avez tout fait ce que vous pouvez. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est mettre cette armure. C'est vous équiper de cette armure. Voilà, parlons maintenant de l'armure en tant que telle. Hein. Et je ne vais pas passer une heure hein, pour tout expliquer. Ce n'est pas mon but aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'était plus mon but que vous compreniez que c'est important de s'équiper de cette armure. Mais je ne peux pas vous laisser sans vous dire de quoi on parle. Hein. C'est... Alors là, c'est maintenant le chrétien, le mec sans son armure. Hein. Hein. Ça, c'est moi, il y a 40 ans, hein, disons. Hein. Eh ben, hein, ouais, c'est ça. J'ai pris... N'importe quoi. C'est enregistré, je dis rien. Voilà. Merci, hein. J'ai pas pris trop d'images, hein, parce que... Alors, une armure... J'ai marqué? Oui, une armure sans faille. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourriez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, je vais regarder avec vous cette armure. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Pour moi, c'est pour maintenir. Hein. La ceinture est là pour maintenir tout le bazar hein, qu'on porte. Personne ne peut combattre avec les fesses en l'air. Hein. Hein, je ne sais pas comment c'est vous, si ce n'est pas ma ceinture, alors les enfants ils disent toujours « Eh, on va tes fesses !» Voilà. Hein. Pour ça, c'est la ceinture. Pour tenir tout ça. Hein. Autrement, vous n'allez pas combattre. Hein. Vous serez risé de tout le monde. Hein. Le diable, il va rigoler. Hein. Alors, la ceinture. C'est la vérité qui maintient tous les éléments ensemble. Ce n'est pas par hasard que Paul commence par là. Je suis en vérité avec moi-même, avec Dieu et avec les autres. Sans cette ceinture, tôt ou tard, tu vas perdre tes pantalons. Et tu vas avoir du mal à combattre. Du mal. Vous avez déjà vu, mais peut-être que ce n'est plus trop la mode. Les jeunes, ils avaient le jean jusque-là en bas. Hein. Je ne sais jamais quand ça tombe ou ça ne tombe pas. Hein. Mais peut-être un miracle qui tient ça, je ne sais pas. Hein. Hein. Mais comment on peut marcher tout ça hein. Voilà. On essaie parfois de marcher de drôle de façon. Hein. La ceinture est là. Hein, c'est la droiture, hein, c'est pour maintenir la vérité. Hein, la vérité dans notre vie, dans ce que nous disons, ce que nous sommes, des véritables enfants de Dieu. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Peut-être c'est... Ah non, ça c'est pas... Hein. Mais il a une ceinture aussi, il a des épées et tout, hein. Mais c'est ça plutôt. Hein. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse pour se motiver. Vous savez ce que la cuirasse fait? Elle vous aide à vous tenir droite. Ça donne une fière allure, hein, une cuirasse. Si vous avez une cuirasse, vous ne pouvez pas marcher comme ça. Ce n'est pas possible. Hein. Ça fait tchou, hein, aligné, paf, paf. C'est ça, la droiture. Elle vous aide à tenir droit et vous pouvez être fier si vous êtes quelqu'un de droit. Vous pouvez être fier. Aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, parfois, j'ai presque l'impression que c'est le contraire qui est le cas. Chaque chrétien qui a peut-être ses combats, « Oh, c'est bien, c'est... Hein? » Non, c'est bien. C'est bien faire, d'être droit, de vraiment vivre clairement avec le Seigneur. Vraiment, de marcher comme lui, il veut qu'on marche. C'est important. Si vous êtes quelqu'un qui joue selon les règles du Dieu, mettez-vous droit. Mettez l'armure de Dieu. C'est arrêter de s'écraser. C'est de montrer au diable que vous n'êtes pas une mauviette. Non. Vous tenez à la parole de Dieu. Vous tenez à Jésus-Christ. Vous l'aimez. Vous êtes son enfant. Vous faites partie de son armée. Hein? C'est ça, la cuirasse. Paf. Oui. Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. C'est pour tenir. Est-ce que vous avez vu le film « Il faut sauver le soldat Rhein » C'est que ça, non pas, dernière scène. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont sur un pont, je pense, quelque part en Hollande. Et c'est des Américains, hein, ils sont sous le feu des Allemands. Ils sont pas beaucoup. Et ils sont en train de faire s'écraser par les Allemands. Ryan, hein, il reste. Il reste avec son capitaine, je crois, Miller, il s'appelait. Il reste avec lui. Lui, il est mortellement blessé. Et sous le feu, il reste pour lui tenir la main, pour écouter ses dernières paroles, jusqu'à la mort. C'est ça. C'est ça, porter les chaussures. Tu savais, tu es resté jusqu'à la fin. Ça peut siffler autour de vous comme ça veut. Vous restez. C'est Jésus qui les a portées, ces chaussures, quand il était à la croix. Hein. Quand il a souffert d'un truc atroce. Et dans cette souffrance-là, il voyait le brigand à côté de lui. Il voyait sa maman au pied de la croix. Il voyait Jean. Au pied de la croix, et il essayait encore d'aider, c'est ça, porter les chaussures. C'est ça. Et c'est Étienne, pas toi, hein? J'espère aussi, hein? C'est Étienne qui les portait. Quand ces assassins, ils ont lancé les cailloux sur lui, et avant de mourir, il a encore pu dire, pardonne-leur. C'est ça, porter les chaussures. Porter les chaussures, c'est malgré tout, malgré nos souffrances, malgré ce que je subis, malgré les situations qui sont peut-être parfois difficiles et très, très difficiles, je sais, voir l'autre à côté. À vos pieds, la disponibilité à servir la bonne nouvelle, au plein milieu du combat. Saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Hein, le bouclier pour nous protéger. Voyons Abraham. Abraham qui ne voulait pas la richesse qui lui est proposée. Je ne veux rien de Sodome. De Sodome, Sodome on dit. Hein, que le roi de Sodome il voulait lui donner tout plein de cadeaux et tout, et Abraham a dit, non, je ne veux pas. Et le soir, c'est Dieu lui-même qui est venu vers lui et lui a dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, il s'appelait encore Abraham, hein, Abraham à cette époque, hein, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. C'est ça, le bouclier. C'est ça, éteindre le flèche. Non, je ne veux pas cet argent. Je ne veux pas. Pouh. Voyons Job. Lui, hein, oh là, il était sous une flèche, hein, sous une nuée de flèches. Hein, et des flèches, ils venaient partout. De sa femme, de ses amis, de tout le monde. Hein. Renie Dieu. Ah, ça sifflait, hein, de partout les flèches. Hein. Et lui, non. Et jusqu'à la fin, je sais que mon rédempteur est vivant. Je sais. Patatatac. Tout, il a arrêté. Mais voyons Ananias et Saphira, hein, qui se laissent transpercer par la flèche de la cupidité. Et les flammes ont fait leur ravage dans leur vie. Acte au début. Hein, quand ils ont vendu des choses, ils ont dit, ah voilà, on a tout donné, on veut tout donner au Seigneur et tout ça. Mais non, ils ont gardé la moitié pour eux. Et les flammes, ils ont ravagé le cœur de ces deux personnes. Par la foi, laissez le Seigneur être votre bouclier. Quand les flèches arrivent, essayez, hein, prenez cet bouclier. Prenez le salut pour casque, pour s'assurer, je dirais. Hein. Bien sûr, hein, le casque protège la tête et tout ce qui est dedans, hein, c'est si vous n'avez quelque chose. Alors, ne te laisse pas embrouiller par qui que ce soit. Ne te laisse pas embrouiller par qui que ce soit. En croyant en Jésus-Christ, tu es sauvé. Point. Ça peut dire n'importe qui venir et dire, ah non, pas comme toi tu es, hein. Tu ne peux jamais. Non, non. Par la grâce du Seigneur, tu es sauvé. Il ne faut pas faire embrouiller. Peut-être, ce serait pas mal chaque matin, hein, avant que tu fasses quoi que ce soit d'autre, mets ton casque, hein, virtuel, hein, mets ton casque, hein, en te disant, je suis sauvé. La grâce de Dieu suffit pour toute la journée. Peut-être je vais faire des bêtises monumentales. Peut-être je vais apprendre des choses mauvaises. Peut-être je vais rencontrer des personnes qui me veulent que du mal. Peut-être je vais passer une sale journée. Mais je sais une chose, Jésus est mon sauveur. Toc, toc, toc. Ça, c'est le casque du salut. C'est porter le casque du salut. Et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ah, c'est pour contrer. Hein, après 5 pièces, qui c'était plutôt pour se défendre, l'épée est le seul élément là-dedans pour contrer. Pour faire des dégâts. Hein. Comme dit la personne qui a écrit Hébreux, la lettre aux Hébreux, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. Et pénètre jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Oui. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Oui, vous avez bien entendu. Cette épée, la parole de Dieu, tranche tout. Une arme redoutable. Une arme que même le diable a peur comme de la peste. Pendant la tentation, hein, quand le diable a essayé de faire tomber Jésus, chaque fois que Jésus a répondu par la parole de Dieu, il est parti. Sa queue entre les jambes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de ne pas sous-estimer la puissance de la parole de Dieu. Puissance de la parole de Dieu. Ah voilà. Vous avez déjà vu, là? Oui, voilà. Ah, voilà. Et je termine avec cette armure à anneau. À l'époque, peut-être dans la mythologie et tout ça, on donnait un nom à son équipement, hein, aussi à ses épées et tout ça, hein, ils ont les noms. Durandal, c'est l'épée de Durandal, D-U-R-A-N-D-A-L, c'est l'épée de comment? De Charlemagne, hein. Excalibur, c'est l'épée de Arthur. Voilà. Andruil, c'est Aragorn. Voilà, très bien, très bien. La flamme de l'Ouest, ouais. Trop bien. Notre armure aussi. Notre armure aussi. Il y a un nom. Au moins, moi, j'ai donné un nom à cette armure. Et cette armure s'appelle Jésus-Christ. Je divague? Je divague là? Lisons ensemble Romains 13, versets 12 à 14 et 14. La nuit tire à sa fin. Le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Et après? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs humains, etc. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ça, comment je peux terminer ce message sans regarder vers lui? C'est lui notre armure. C'est lui la vérité. La droiture, la raison de servir, la foi, le salut, et c'est sa parole. C'est en lui qui se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devons être sauvés. Aucun autre homme. Acte 4, verset 12, pour ceux qui veulent. Pour nous encourager, on nous encourage de nous équiper, de prendre l'armure de Dieu, de l'utiliser dans notre vie, dans notre vie de tous les jours. Je vous encourage, peut-être chaque matin, comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous vous réveillez, vous dites, voilà, aujourd'hui, je veux mettre cette armure. Je sais, vous faites ça peut-être une semaine après, vous oubliez. C'est pas grave. Hein? Si vous le faites une, deux fois, c'est déjà... Je n'ai pas d'illusion. Je sais comment on est. Si, vous savez quoi? La première chose que je fais, avant que je fasse quoi que ce soit le matin, je lis un chapitre de la Bible. Je suis bien. Non? Non. Voilà. Vous allez penser à nouveau, waouh, il est bien celui-là. Et, ah oui, voilà, ça c'est vraiment... Non, pas du tout. Je connais les illusions, je connais. Mais peut-être, l'un ou l'autre matin, quand vous vous réveillez, pensez. Ah oui, aujourd'hui, Seigneur, j'aimerais compter sur ce salut. J'aimerais me revertir de cette droiture. Je veux vivre comme tu veux que je vis. Aujourd'hui, je veux marcher avec ces chaussures que tu donnes. Aujourd'hui, je veux voir plus que ma propre personne. Et même si j'ai mal, que je vois l'autre à côté de moi. Aujourd'hui, je veux prendre cette armure. Je vous encourage de faire ça. Et peut-être si la prochaine Connect, si vous êtes dans le prochain Connect, peut-être vous prenez une fois un peu de temps pour réfléchir. Ah voilà, quelles sont les flèches Quelles sont les flèches du diable qui m'atteint le plus, qui sont les plus dangereux pour moi, pour ma vie, hein? Et peut-être en même temps, comment je peux les éviter? Comment je peux me défendre contre ça? Quelles sont les ruses avec qui j'ai plus du mal, hein? Peut-être que vous avez une fois un moment pour réfléchir un peu de ça. Hein? Prenez l'armure de Dieu. Elle est là. Elle a un nom, Jésus-Christ. C'est lui notre salut. C'est lui notre raison d'être. Amen. Je pense... Attends. Ah oui, ça j'ai dit. Voilà. Là, on lance. Il faut que j'appuie. Mais oui, c'est fini. Non, là. On va enchaîner, hein, là, avec un moment où on veut louer les seigneurs. Louer les seigneurs pour voilà, ce qu'on a entendu. Hein. C'est son nom, hein, son nom qui nous sauve. Hein. C'est son nom. Voilà.